J'ai travaillé avec un premier laboratoire. On y a mis mais énormément d'énergie, de temps, d'investissement, donc financier, humain, tout ça. Et j'ai été plantée. Donc, du coup, il a fallu tout recommencer. Et là, je me suis dit, en fait, là, je vais travailler avec une indépendante et je choisirai mon laboratoire. Et je vais éviter de mettre les deux, tous mes œufs dans le même panier. Et du coup, j'ai fait une super rencontre, grâce en plus à mes partenaires.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois Algia Aït Medour. Entrepreneuse, Algia gravite dans le secteur cosmétique depuis une bonne dizaine d'années. Et oui, chose pas banale, elle a commencé en créant les concept stores Mix Beauty, une expérience unique qui lui a donné des ailes pour lancer quelques années plus tard, Gia Paris, sa marque de soins capillaires. Dans cette première partie de notre entretien, Algia revient sur ce parcours que l'on peut qualifier de pionnier et sur les débuts un peu compliqués de Gia Paris. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Algia.
Bonjour Chantal.
Tu vas bien?
Très bien, merci. Et toi?
Très bien, merci. Qui es-tu?
Algia Aït Medour, 41 ans, chef d'entreprise, maman de deux enfants. Et puis tout le reste, on va le voir après. Voilà, pour les grandes lignes.
Et alors, c'est toi qui es à l'origine des concept stores Mix Beauty. Tu peux nous raconter en quelques mots?
Oui, alors Mix Beauty, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concept de beauté globale, multiethnique, même si j'aime pas multiethnique, j'irai destiné à toutes les beautés du monde,
voilà.
Que j'ai créé en 2010. Et c'est en fait l'aboutissement d'un rêve que j'avais depuis mes 18 ans, de créer un espace où on regroupe toutes les activités de la beauté et qui soit ouvert à toutes les femmes, quel que soit leur type de peau et de cheveux. Et c'est issu de mon histoire personnelle et celle de mes amis, puisque je suis issue d'un milieu très cosmopolite. J'ai grandi en Île-de-France et très jeune, on était déjà confrontés à l'absence de prestations de qualité pour les cheveux texturés et encore plus pour ma meilleure amie, par exemple, qui était sénégalaise, donc pour les peaux foncées, ouais. En maquillage, par exemple.
Et oui.
Encore, tu vois, les cheveux, elle savait se coiffer entre elles, elle savait tresser.
Voilà.
Mais après, malheureusement, il fallait que je l'accompagne dans les quartiers parisiens que tu connais, Boulevard Strasbourg, tout ça, ouais, pour qu'elle puisse se coiffer.
Château d'eau.
Et qui ont bien évolué.
Oui.
Mais t'imagines, j'ai 41 ans, donc c'était il y a plus de 20 ans. On était dans des salons où il n'y avait pas de diplôme.
Ouais.
Où les lieux étaient presque insalubres. Où on arrivait le matin, on avait rendez-vous à 9h, mais la prestation se terminait à 21h. Bah oui, c'était ça. Tout le monde avait rendez-vous à la même heure.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Et après, elle, de son côté, elle devait m'accompagner chez d'autres types de coiffeurs qui savaient s'occuper de mon cheveu. Quoi. Mm. C'était complètement, complètement délirant. Et pareil pour le maquillage. Alors là, y avait Walunada pour les peaux foncées.
Ah ouais. Il fallait en tout cas se faire ramener quelque chose
Des États-Unis.
Des États-Unis. Ouais.
Voilà, exactement. C'est Quand on était jeunes, c'était pas possible.
Et
à l'époque, il y avait pas le web.
Il y avait pas.
On commençait à apprendre à l'école à tapoter sur une machine. C'était ça en fait. On apprenait vraiment dans des salles informatiques à l'époque.
C'était
l'arrivée des téléphones portables.
Oui.
Donc t'imagines que ça n'existait pas et on savait même pas. Presque, on ne savait pas ce qui existait ailleurs. Donc, du coup, il fallait qu'on innove, qu'on trouve des solutions pour maquiller des peaux foncées. Et moi, je la maquillais avec de la terracotta.
Ouais, voilà.
Donc, la terracotta la plus foncée.
Ouais.
Voilà comment on a commencé notre histoire dans le maquillage, toutes les deux. Et là, je trouvais ça déjà pas normal et super injuste. Et du coup, j'ai eu ce projet très tôt. Je me suis dit, mais il faut que je crée un concept de beauté globale. Et j'ai fait des études, j'ai fait une école de commerce pour apprendre la gestion, le marketing et la communication, en tout cas ce qu'il y avait à l'époque. Hein. Le marketing digital, ça n'existait pas. Donc... Et j'ai complété ça avec un MBA en marketing du luxe, option cosmétique, parce que je me suis dit, c'est un rêve, tu vois, quand t'es jeune, tu te dis, mon projet professionnel, ce n'est qu'un rêve. Et il va aboutir que quand j'aurai enchaîné des boulots pour des grands groupes qui vont m'apprendre le métier. Mais au final, à la sortie de mes études, après 5 ans d'alternance pour payer
Ans d'alternance.
Ouais, pour payer mon école.
Ouais, c'est ça.
Je suis issue d'un milieu vraiment très modeste. Mmh. J'ai été élevée par une mère célibataire. Donc, moi, l'école de commerce, ça a été financé par l'entreprise.
Voilà.
Donc, après 5 ans d'alternance et un premier boulot pour un marketing, un magazine de culture de mode, je me suis dit non, mais en fait, je sais que je ne peux être que chef d'entreprise.
Mmh,
je ressentais ça et j'arrivais plus en fait à travailler pour quelqu'un. Mmh. Autant quand c'était dans le cadre des études, c'était accepté parce que c'était, oui. Je jouais le jeu en fait.
Oui, voilà.
Et en plus, j'étais une apprentie disciplinée. Ouais, ouais. Voilà. Mais par contre, quand j'ai été diplômée, j'ai senti que là, c'était plus possible. Mmh.
C'était plus
et j'avais
place.
Ça en moi. Voilà. Ouais. Donc, j'ai pris un billet, hop, j'ai démissionné, j'ai pris un billet pour les États-Unis et je suis allée chercher. Je suis allée à New York en me disant, est-ce qu'il existe ce concept là-bas,
d'accord.
déjà? Je me suis dit, ils sont tellement en avance dans tout que c'est pas possible, en fait, qu'ils ignorent, en fait, qu'ils ignorent que. On doit en fait aujourd'hui pouvoir tout être au même endroit. On ne peut pas ghettoiser la beauté.
C'est ça. Ouais.
Et j'ai été super déçue à ce niveau-là.
Il n'y avait rien.
C'était comme en France, ce n'est pire. Mm. Ça ne se mélangeait pas du tout.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et par contre, je suis revenue avec une multitude de marques que je ne connaissais pas. Mm. Et j'ai été super surprise parce qu'à l'époque, il y avait Carol's Daughter qui arrivait. Et c'était pour moi une marque magnifique. Elle transpirait le naturel, l'entreprise familiale, des égéries connues, américaines. Mmh. Donc ça, c'était innovant. Et il y avait du marketing derrière de dingue pour une jeune femme qui avait créé ça. Donc voilà, j'étais revenue avec tout ça, boostée.
Mais comme ouf.
Ah oui, de ouf. Mais je pense que voilà, j'avais 25 ans. Donc,
oui, voilà.
Mais boostée comme une dingue en me disant, mais en fait, ça ne peut que fonctionner. Et quand je suis arrivée, boostée comme ça, avec un dossier super bien ficelé, j'ai eu la chance de me faire accompagner par une banque et par un centre commercial qui a cru au projet.
Ah,
parce que je voulais impérativement m'installer dans un centre commercial pour que ça fonctionne très vite et
bien
très bien.
Bien sûr.
Parce que la communication, quand t'as pas un sou et que t'as tout mis dans ton espace, sachant qu'il fallait que mon espace faisait plus de 250 mètres carrés, il y avait 10 employés dès l'embauche, puisqu'il y avait tous les métiers.
Oui.
Des maquilleurs, coiffeurs, esthéticiennes, personnel de vente, voilà. Mmh. Je pouvais pas plus mettre d'argent en fait en communication. Et je me suis dit, en centre commercial, avec une belle palissade pendant les 3 mois de travaux, va éveiller la curiosité dans un endroit ultra cosmopolite. Et en plus, il y avait un centre d'affaires au-dessus, puisque j'étais aux arcades à Noisy-le-Grand.
Ouais, d'accord.
RER
et
gare routière.
Ouais.
Donc j'ai dit, mais en fait, il y a tellement de monde qui va passer devant la palissade pendant les travaux. Une belle publicité dessus, puisque là, c'est gratuit, c'est à moi. Et ça a fonctionné. Dès l'ouverture, les gens étaient là et devant la porte, et ça a fonctionné. On a été rentable dès la première année.
Wow.
Le concept a plu. L'aventure a démarré.
Votre public, quoi.
Tout de suite. Mm. Mais en fait, elles étaient tellement heureuses en disant
Y avait rien.
Mais c'est super.
Ouais.
Mais déjà, il n'y avait rien. Et en plus, elles n'avaient pas pensé à ça.
Parce
qu'à la fois, tu avais toutes les activités de la beauté regroupées. Donc, c'était un gain de temps considérable pour une clientèle pressée parisienne. Et en plus, tu vois, c'était une zone de passage entre le travail et la maison.
Ouais, donc tu pouvais t'arrêter. Clac-clac.
Et le week-end, en plus, tu prends ton temps.
Ouais. Et en plus, tu pouvais acheter des produits.
Mais t'achètes tes produits, tu te fais coiffer, tu te fais maquiller, tu fais tes épilations. En fait, on offrait tout. Et même le conseil en images.
Ouais.
Pour celles qui voulaient offrir. Et le shopping se faisait dans la zone.
Oui,
donc,
c'est ça.
Tout était parfait.
Ah, pas mal.
Ça a bien fonctionné, des équipes qui ont adhéré.
Oui,
Par contre, la formation n'existait pas.
Ouais.
Donc, il a fallu que je fasse des formations en interne et avec l'accompagnement des marques. Il y avait quand même, à l'époque, Misani du groupe L'Oréal qui accompagnait pour les cheveux texturés. Et puis après, il y avait quand même le groupe Avlon qui nous faisait venir carrément des formateurs d'Angleterre.
Ouais.
Non, quand ils ont su qu'il y avait un concept comme ça, ils ont adhéré tout de suite
parce que
là, c'était ça reflétait une belle image en fait pour le secteur. Et ils disaient enfin, en fait, un salon qualitatif.
Ouais, ouais.
Et surtout qu'en plus maintenant, on avait une clientèle qui n'acceptait plus en fait d'aller se faire coiffer par des coiffeuses qui n'étaient pas diplômées, avec le risque d'avoir des défrisages périmés. C'était ça, la réalité de l'époque.
C'est ça,
Et du coup, on a attiré une clientèle, finalement, de la région parisienne, alors qu'on était en banlieue. La clientèle était super contente.
T'as vraiment touché à la fois des Parisiennes, mais également des filles de la petite couronne, enfin des femmes de la petite couronne, de la grande couronne.
On était sur la ligne de RER A, et c'était volontaire en fait.
Moi, de toute façon, je
me positionnais que s'il y avait une accessibilité métro ou RER, et ça permettait en fait de dire, bon, certes, on est en banlieue, mais on est sur la ligne de RER A, et vous pouvez la prendre du centre de Paris.
C'est ça.
Donc du coup, elle venait de partout, pour la curiosité, pour les achats. Donc, on a même attiré, tu vois, les grands groupes qui venaient visiter le concept. Parce que c'était tout nouveau. Exemple, Kérastase,
tu vois,
qui est en fait une marque destinée qu'au salon de coiffure.
Oui.
Et qui, normalement, n'est pas vendue en libre-service.
Ouais,
or, moi,
j'avais
un espace qui regroupait, du coup, tous les produits... que ce soit du soin visage et corps, soin capillaire, maquillage, postiche, extension, accessoires. C'était nouveau pour eux, c'était une sorte de mini Sephora.
Ouais.
Et eux, pour eux, c'était pour les peaux foncées et cheveux texturés, tu vois. C'est comme ça qu'ils me qualifiaient, alors qu'on avait de tout. Donc,
oui.
Ils étaient très curieux, ils venaient en groupe, en fait. Ils me demandaient l'autorisation de venir, de visiter et de faire découvrir ça, en fait, à leur hiérarchie.
Ouais.
Et en fait, ils venaient visiter le concept.
C'était
nouveau. Donc, ça a fonctionné et on a ouvert tous les deux ans.
Tous les deux ans,
jusqu'à 2008, combien de... 2012, 2014, 2016, jusqu'à ma dernière ouverture à Paris.
Ouais.
Et l'enchaînement, on va dire, Covid, montée du web, des ventes sur le web. Parce que finalement, nos clientes qui, qui ne consommaient pas sur le web et qui avaient besoin de conseils, finalement, se sont senties forcées pendant le Covid, ont pris cette habitude et s'y sont plus.
Ouais.
Elles ont compris qu'elles pouvaient aussi comparer.
Oui.
Ne plus se déplacer. C'est vrai que c'est un confort.
Bien sûr.
Moi, personnellement, alors que j'ai des magasins physiques, je suis une grosse consommatrice du web. Donc, du coup, il y a eu ce changement de consommation. Donc, là, j'ai envie de dire, il a fallu freiner mon développement, voire même pour les centres commerciaux, les arrêter. Parce que les centres commerciaux, pareil, ont pris un gros virage. Et ça a été très dur. Donc, du coup, on a dit, bon, on prend la décision de sortir des centres commerciaux et de rester en ville.
Okay.
Un peu le principe des monoprix, tu vois.
Oui,
au final,
les
grandes surfaces,
bien sûr.
Ça ne fonctionne plus partout, notamment en Île-de-France, où en fait, on est quand même saturé par de l'offre. Et du coup, j'ai dit, bon, il faut que je fasse le pari plutôt du web et des magasins physiques en rue. Et puis, surtout, le magasin de Paris qui est en plein Châtelet. Voilà, ça, c'est central. Elles peuvent venir de partout. Donc, mais par contre... On peut pas, la prestation ne disparaîtra jamais.
Bien sûr.
S'il y a eu le Covid, personne n'a appris à se couper les cheveux, sauf pour certaines, et les plus douées.
Mais
personne n'a suivi des tutos pour apprendre
à se couper
les cheveux.
Non.
Et puis cette expertise, elle n'est qu'aux artistes coiffeurs.
Oui, voilà.
Donc
exactement.
Du coup, mes salons cartonnent. C'est-à-dire que on a eu un accroissement de notre chiffre d'affaires sur la partie prestation et une diminution sur la vente.
Sur la vente, ok.
Par contre, on reste quand même une référence pour nos clientes, c'est-à-dire quand elles ont besoin de conseils, tout ça, on vient en magasin physique.
Ouais, exactement.
Par contre, le renouvellement, tout ça, elles le font souvent sur notre site. Voilà ce qui
s'est passé. Aujourd'hui, tu as combien de boutiques en physique ?
J'ai deux boutiques physiques.
Deux boutiques physiques, d'accord.
Voilà.
Okay.
Une dans Paris et une dans le 91 à Évry.
Ouais, d'accord, ok.
Et j'ai le site de vente en ligne, mixbeauty.com.
Et alors, un jour, tu décides de créer ta marque capillaire.
Exactement.
Pourquoi ?
C'est pas qu'un jour je décide, c'est que c'était quelque chose comme le concept Mix Beauty qui était là en fait.
Oui.
L'idée de créer un concept s'associait pour moi à une marque de distribution. Puisque mon projet Mix Beauty, c'était pas d'ouvrir une boutique tous les deux ans, c'est de développer une franchise.
Ouais, d'accord.
Je voulais juste en fait développer mes propres concepts, c'est-à-dire mes magasins en nom propre. De montrer que le concept fonctionne pour après le dupliquer dans la France entière. Mais il est évident que je suis seule.
Ouais.
Moi, je n'ai pas. J'ai jamais fait de levée de fonds, j'ai jamais voulu d'investisseur. J'ai toujours voulu être.
D'accord. T'es à 100%.
Je voulais être.
Seule maître à bord.
Exactement. Mmh. Exactement. Ça a fonctionné comme ça et tant mieux. Comme ça, j'ai eu de pression de personne.
Oui, voilà. Ouais.
Et donc, il était évident que j'ai ma propre marque. Parce qu'à un moment, il faut que le magasin survive, on a des emplois, on a tout ça, il faut que les marges soient plus conséquentes. Et surtout, ça nous permet de contrôler nos produits.
Ouais.
Quoi. Là, tu as un contrôle total, en fait.
C'est ça.
Et du coup, c'était déjà là. Simplement, j'ai tellement été absorbée par le développement de mes concepts. On était arrivé à dépasser 50 employés, donc toute seule, c'était une grosse charge. Même si j'ai bien délégué ça et qu'on était structuré avec responsable réseau, directrice, tout ça, manager de pôle. Mais
ça t'a accaparé.
Ça m'a accaparé. Et quand j'ai décidé de le faire, en fait, ça a été une évidence quand, vers 2014-2015, on a vraiment... j'étais aux premières loges du virage qu'ont pris nos clientes aux cheveux texturés, qui défrisaient et qui sont devenus des nappies.
Ce mouvement-là.
Et on l'a senti, on a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait.
Ouais, d'accord.
Et qu'il fallait pas louper ce virage-là, en fait. Et malheureusement, en France, on n'était pas bon. Encore une fois.
C'est vrai qu'il y avait pas
on dépendait des marques américaines.
Ouais,
et ça, pour moi, ça a été lourd pour mon commerce. C'est-à-dire que il y avait pas assez de marques françaises. Il y avait quand même Kelly qui était là.
Oui.
Et franchement, chapeau, parce qu'elle a tenu toutes ces années-là.
Oh, ouais.
Parce qu'il y en a qui ont disparu. Il y avait même des belles marques, pour citer Amenaïd, si elle nous écoute. Mais c'était une marque magnifique. Mais je crois qu'elle Mais c'était trop difficile. Ça veut dire que c'était super qualitatif. Donc, du coup, les produits étaient riches en actifs, des ingrédients nobles. Mais malheureusement, en fait, quand il y a personne qui croit en fait à cette activité, quoi, à ces produits, à cette clientèle, c'était ça la réalité.
Oui, voilà, c'est ça.
Et que t'as pas les moyens de développer une marque parce qu'en marketing, ça suit pas. Bah, il se passe que les clientes vont acheter ce qu'elles voient en fait sur les réseaux, parce que là, ça y est, le web commençait à se démocratiser. Donc, les gens avaient accès à la communication et la communication venait des États-Unis. Donc, c'est du Schemoster qui s'est imposé.
Oui, exact.
Donc, les clientes venaient pour demander que des marques américaines.
Ouais.
Au point où j'ai dû, avec mon conjoint, créer une entité aux États-Unis, t'imagines, à Miami, pour pouvoir importer toutes mes marques. Parce qu'en fait, on débitait tellement. Mais là, par contre, la vente, ça représentait 60% de mon chiffre d'affaires.
Ah oui.
Avant le Covid, c'était ça. Hein. Ça veut dire qu'on faisait plus d'1 million par magasin. Et on faisait 60% de notre chiffre d'affaires que sur de la vente. Donc, on était gros clients, en fait, pour les marques.
Carrément.
Et du coup, bah là, il a fallu que je crée, une entité aux États-Unis et qu'on importe.
Oui, c'est ça.
Parce qu'en plus, et avec toutes les contraintes que ça comportait, c'est-à-dire produits pas enregistrés en France, donc les risques qu'on prenait en douane, étiquetage à faire des États-Unis, nous-mêmes, en français, la variation du dollar, la variation des coûts de transport et la cliente qui n'accepte pas que le produit bouge d'un euro d'un mois à un autre.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'était beaucoup, beaucoup de contraintes et 90% de mes marques étaient américaines.
Waouh. Ouais.
Et pardon, j'ai oublié de citer Noir au Naturel quand même,
oui,
qui est là depuis le début. Et c'est important parce que c'était la première en bio et la seule. Donc, j'avais ce créé de Loli, Noir au Naturel. Mais malheureusement, nous, on dirigeait, c'est-à-dire que grâce au conseil, on dirigeait nos clientes vers ces produits-là. Mais elles entraient dans le magasin pour demander des marques bien connues.
Voilà.
Donc, j'en avais aussi un peu marre de ça. Et là, je me suis dit, mais là, c'est le moment, en fait. C'est le moment parce que j'ai une expertise de plusieurs années. Je sais exactement ce que les clientes attendent. C'est une clientèle, en plus, ultra avertie. Qui connaît la composition des produits. Donc, elle venait principalement, au final, pour nous acheter des huiles quand elle voulait, en fait, quand elle voyait qu'elle n'avait pas, en tout cas, ce qu'elle recherchait.
Ouais.
Donc, je me suis dit, non, mais en fait, je vais mettre toute mon expertise et celle de mon équipe au service de la marque. Et voilà comment l'aventure est née. Donc, c'était il y a un moment.
Ouais.
Et malheureusement, ça a pris beaucoup de temps parce que j'ai eu des embûches dans mon parcours.
Ah ouais, bah,
c'est pour ça qu'elle est... il s'est passé qu'il faut faire le choix des bons collaborateurs externes, donc c'est-à-dire laboratoire, formulateur. Et je ne vais pas dire que j'ai fait un mauvais choix. Avec des si, tu refais le monde.
Oui, c'est ça.
À ce moment-là, ça me paraissait être le meilleur.
Voilà.
Et j'ai fait un mauvais choix qui m'a valu 3 ans de travail.
Pour rien.
Oui, pour rien.
Tu as travaillé avec un premier labo.
Oui, j'ai travaillé avec un premier laboratoire.
Ouais.
On y a mis énormément d'énergie, de temps, d'investissement, donc financier, humain, tout ça, et j'ai été plantée. Donc, du coup, il a fallu tout recommencer. Et là, je me suis dit, je vais travailler avec une indépendante et je choisirai mon laboratoire. Et je vais éviter de mettre les deux, tous mes œufs dans le même panier.
Ouais.
Et du coup, j'ai fait une super rencontre, grâce en plus à mes partenaires. Je suis amie avec mes partenaires et je leur ai expliqué ce qui m'était arrivé et ils m'ont donné des conseils en disant fais plutôt comme ça et j'ai tout retravaillé avec une formulatrice et on a recommencé encore, on est reparti à zéro, mais avec le même cahier des charges.
Oui, d'accord.
Et voilà. Voilà l'histoire de J.A. Paris.
Donc J.A. Paris, c'est une marque de capillaire. T'aurais pas voulu faire une marque de maquillage ou de skincare?
Mais t'inquiète pas que j'ai pensé à tout. Non, mais en plus, moi, je suis folle dans ma tête. Mon mari n'en peut plus. Il n'en peut plus de moi. Mais c'est lui qui me freine. Il dit, mais il faut que t'arrêtes. Parce que, si je m'écoutais, moi, je crée plein de choses, je crée tout le temps.
Ouais.
En fait, je pense comme il dit, mais en fait, t'es pas chef d'entreprise, t'es développeuse. Il me dit, en fait, au-delà d'être chef d'entreprise, en fait, t'es une développeuse.
Ouais.
Il me dit, tu adores créer. Et je pense qu'en fait, au début, je lui disais, non, tu te trompes. Moi, j'aime gérer des équipes. Il me dit, non, en fait, t'aimes développer. Il me dit, ça veut pas dire que quand j'arrive au bout, j'abandonne. Hein.
Non, non, non.
Mais c'est que...
T'aimes lancer des projets,
quoi. Quand c'est arrivé au stade de maturité,
ouais.
Bah j'en ai déjà 10 de côté que je veux lancer, et en parallèle, en plus. Donc, du coup, il faut me freiner assez vite.
Ouais.
Et en fait, je développais aussi ma marque de make-up en parallèle.
Ah, d'accord, ok.
C'est juste qu'encore une fois, il y a eu le Covid.
Voilà.
Et il y a eu le Covid et l'arrivée de toutes ces influenceuses qui ont créé leur marque. Donc, on était arrivé aussi à un stade plutôt avancé.
Ouais.
Mais heureusement que je n'ai pas mis plus de sous que ça dans la fabrication. Donc, on a travaillé la formulation. Parce que là, encore une fois, comme pour la marque de capillaire, il était important pour moi que ce soit nos propres formulations. Et,
oui.
Et surtout, t'imagines, là, il ne fallait pas que je me rate.
Ah non,
c'était mon domaine depuis des années. Les peaux, il fallait que... Et puis, il y a Fenty qui est arrivé.
Oui.
Et tout ça, en fait. Ouais. En fait, l'arrivée de Fenty a tout bouleversé.
Oui.
Et a bouleversé les marques qui étaient déjà en place.
C'est ça.
Et elles se sont dit, mais en fait, OK, on ne peut plus négliger les peaux foncées.
Ouais, voilà, c'est ça.
Elle a tout compris, cette petite.
Ouais, ouais.
Et au final, ce que je voulais faire, en fait,
oui.
Parce que nous, on était plutôt pionniers quand, en 2010, on arrive avec un concept de beauté globale destiné à toutes les beautés. Donc forcément... ça avait déjà été pris, même s'il y avait aussi des belles marques pour peau foncée. Hein. Nous, on avait des belles marques.
Hein. Ouais, bien sûr.
Elles n'ont pas toutes tenues.
Non, voilà.
Voilà, parce que dès que tu as des mastodontes qui arrivent, elles écrasent tout sur leur passage.
C'est pour ça qu'il faut être costaud en marketing.
Faut être costaud. Et en maquillage, il faut être très costaud.
Il faut être très costaud. Hein, parce que là, quand on voit toutes les marques de maquilleuses professionnelles qui sont lancées, toutes les marques d'influenceuses,
mais
comme tu disais.
En marque blanche.
En marque blanche, évidemment.
Mais en plus, tu peux avoir des belles choses en marque blanche.
Oui, bien sûr.
Mais avec un marketing de dingue derrière.
Voilà, c'est ça. Donc, elles ont une puissance de feu qui est telle que même si tu arrives avec des produits quali, avec des formules, propre et tout,
c'est pas la qualité qui va...
C'est compliqué.
Parfois, t'as des...
C'est compliqué.
J'ai découvert des produits qui étaient plutôt médiocres et qui cartonnaient parce qu'il y avait une super com derrière.
Mais voilà, c'est ça.
Après, ça peut à un moment commencer à...
Oui, ça peut décliner, mais enfin...
À décliner parce qu'il y a mieux en qualité.
Bien sûr.
Mais en tout cas, ils font des démarrages d'enfer.
Ouais. Ouais.
C'est pas ça qui a fait que j'ai arrêté, c'est parce qu'à un moment, il fallait que je fasse un choix.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et mon choix, il allait plus vers le capillaire. Ouais, là, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, que j'aimais, que j'aimais développer avec mon équipe, et on s'est vraiment éclaté. Le maquillage, c'est autre chose.
Ouais, c'est encore un autre domaine.
C'est vraiment une expertise, c'est beaucoup de sous, et c'est trop risqué.
Ouais. Et puis, il y a énormément. De monde, quoi. Enfin,
il y a beaucoup de monde.
L'offre
est pléthorique. Et tu sais que la consommation a changé après le Covid.
Mais oui.
C'est-à-dire qu'il y a eu quand même... En fait, on va dire le chiffre d'affaires mondial du make-up, il a peut-être continué à augmenter avec l'arrivée des marques,
oui.
En fait.
Oui, oui, oui.
Mais les marques elles-mêmes ne se portaient pas forcément bien. Et on le voit pour toutes les marques qui étaient destinées aux peaux foncées. Voilà, Iman...
Oui,
plein de marques, je n'ai même pas envie de les citer, mais toutes les marques qu'on avait à l'époque, on ne les a plus. Nous, aujourd'hui, on est dépouillés en maquillage dans les concepts Mix Beauty, parce qu'en plus, les exclusivités des belles marques qui arrivent sont prises par les grands groupes comme LVMH.
Ouais.
Donc en fait, ils tuent tout le reste du marché.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une sorte de monopole
incroyable.
Et nous, ça nous a même cassé notre activité maquillage.
J'imagine, bien sûr.
Heureusement qu'il y a des petites marques qui ont tenu le coup et qui sont ultra qualitatives. Je pourrais juste citer, tu vois, Biradiance, Fred Messen qui est arrivé, Black Up qui est notre partenaire quand même
qui tient le coup.
Ancestral.
C'est pas, enfin, en tout cas en marque française, c'est pas ça.
Hein. Ouais, et c'est dur pour elle du coup.
Ouais, bien sûr.
Donc voilà. Voilà l'histoire du make-up chez moi.
Qui est une passion, on a compris.
Hein. Ma première passion, c'était le maquillage.
C'est le make-up. Ah ouais, d'accord, ok.
C'est le maquillage, mais j'ai quand même baigné dans un univers de la coiffure parce que ma tante est coiffeuse.
Ok.
Et elle m'a initiée à ça très jeune.
D'accord.
C'est-à-dire que moi, très jeune, je colorais, je méchais mes copines, je leur coupais les cheveux.
En fait, je
suis très autodidacte.
D'accord.
Je regarde, je reproduis.
Oui.
Et du coup, j'ai baigné dedans, mais à côté de ça, tu vois, j'avais que des frères. Quoi. J'ai une demi-sœur maintenant, mais quand j'étais jeune, elle arrivait très tard. Quoi.
C'était
un deuxième mariage. Mais quand j'étais jeune, j'avais que des frères.
Ouais.
Donc, je n'avais pas de modèle pour le maquillage ou quoi. Et pourtant, je me suis maquillée très tôt.
Ouais,
dès
d'accord.
l'entrée au collège, je volais le maquillage de ma mère et je me maquillais. Elle ne remarquait pas que j'étais maquillée.
Ah, pas mal.
Mais j'ai mis du blush très, très tôt. Et en fait, moi, j'ai toujours été attirée. Pourquoi,
d'accord.
je ne sais pas. Ma mère dit que je tiens de ma grand-mère, qui était une vraie coquette. ce qui était rare pour l'époque. Mmh. Et en fait, ouais, j'ai toujours été attirée par le maquillage, ouais, et l'univers de la beauté en général.
En général, ouais. Mmh. Ouais, donc finalement, tout se tient. Hein. Et pour Diapari, quel était ton cahier des charges au niveau formule, quoi? Alors, apparemment, c'est pas de la marque blanche, hein, on a bien compris.
Ah non. tout l'inverse. Ouais. En fait, un cahier des charges plutôt strict je sais que tu m'entends, chère formulatrice, qui a rendu un peu malade ceux qui ont travaillé avec moi, parce que je suis ultra exigeante, c'est-à-dire que moi, je peux pas travailler avec quelqu'un qui me dit « je te fais trois propositions et tu en choisis une et si ça te convient pas,
salut,
au revoir » ou « tu recasques derrière la même chose ».
Ouais.
Donc, moi, dès le début, j'indique que voilà, tant que je n'ai pas le résultat, bah, je ne valide pas. Et est-ce que tu es prêt à vivre l'aventure avec moi? Parce que ça va être une aventure, parce que ça peut durer longtemps.
C'est ça.
Et du coup, mon cahier des charges, c'était que j'ai voulu en fait partager mes valeurs avec les clientes qui partagent, selon moi, les mêmes. Pour celles qui ont les cheveux texturés, elles sont, comme je l'ai dit, elles sont très averties. Elles sont très conscientes, en fait, de ce qu'elles appliquent. Mmh. Elles ont tellement été négligées. On leur a tellement fourni du n'importe quoi.
Ouais, qu'elles ont développé une expertise,
la nouvelle
en fait.
Génération s'est dit, non, mais moi, je me laisserai pas faire comme ma mère.
Ouais.
Et elles ont raison. Et du coup, dans mon cahier des charges, c'était, je veux que mes formulations passent à 100% lorsqu'on les scanne sur Yuka.
Ah, tu vois, oui,
rien
d'accord.
Que ça.
Ouais.
J'ai dit, mais je veux même pas du 80, je veux du 100%. Je veux que aucun ingrédient, en fait, soit controversé dans quelques années.
Okay.
Parce que parfois, en fait, ils passent maintenant.
Oui.
Dans 5 ans, ils ne passeront
pas.
Ouais. Et si je peux faire mieux, pourquoi faire moins bien? C'était ça, en fait.
Ouais, d'accord.
Je veux aller au mieux. Et du coup, ça a pris du temps parce que allier la naturalité et la qualité...
Au niveau texture, ça peut être compliqué.
C'est très dur en cosmétique.
Ouais.
Parce que c'est bon pour le cheveu, mais après, d'un point de vue... résultat,
ouais, voilà,
c'est plutôt dur quand tu retires en fait la poudre de perlimpinpin.
Ouais.
Et c'est ça qui a valu que ça dure longtemps,
ouais,
et qu'on enchaîne pour trouver le produit naturel qui va fonctionner et qui passe à 100%. Voilà, ça a été dur. Et aussi en étant végane, ça aussi c'était
d'accord,
important pour moi.
Ouais.
Donc il y a eu beaucoup de critères.
Ouais, quand même, hein.
Assez
strict.
Ouais, assez strict. Mmh. Après, on va dire que la plupart des marques pour cheveux texturés qui sont sur le marché sont naturelles.
Oui.
Voilà, pas toutes au même niveau,
non,
mais tout le monde
mais...
a fait cet effort-là. Et heureusement,
oui,
parce que là, sinon, c'est vraiment ignorer et la demande et la réalité.
C'est ça.
Et soi-même aussi,
c'est
plus.
Exactement.
C'est-à-dire que si toi-même, tu veux pas consommer tes propres produits, il y a un gros problème. C'est-à-dire si toi-même, tu crois au naturel et que tu fais des produits conventionnels,
il y a un hic là.
C'est-à-dire que tu le fais que pour le business.
C'est ça, ouais, exactement.
Parce que c'est clair que c'est pas en faisant des produits naturels que tu fais de la marge. Hein.
Non,
ça,
on est d'accord.
Dire, parce que parfois, certains pensent que quand ce sont des produits naturels, c'est moins cher. Non, c'est tout l'inverse.
Non.
C'est tout l'inverse. Mais ça, c'est pour les novices, quoi, ceux qui pensent que le naturel...
Oui.
C'est des huiles,
voilà,
c'est des beurres,
oui, non,
mais c'est ce qui coûte cher, en fait.
Coûte cher, hein. Et puis
le conventionnel coûte pas cher.
Et tout. Ouais, mais bien sûr, voilà. C'est
et donc, on se demande, mais pourquoi il y a une différence de prix avec un produit du supermarché et un produit naturel qui vient d'être créé par une nouvelle marque? Bah oui, mais tout est justifié par les actifs,
la qualité,
en fait.
Qui
sont, les actifs nobles, la qualité,
voilà,
le naturel.
Ça, exactement.
Il est impossible de faire des produits en dessous d'un certain prix.
Ouais.
Sinon, en fait...
Oui, c'est ça.
Ça n'évolue plus, en fait.
Ouais, exactement. C'est déjà fini. Eh oui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. Au fait, pendant que j'y pense, parlez de Beauty Toaster à au moins 2 personnes de votre entourage et demandez-leur de s'abonner à Beauty Toaster via leur plateforme de streaming préférée. Si vous désirez soutenir la production du premier podcast beauté en français, je vous donne une astuce simple, gratuite et ô combien efficace. Laissez un avis et des étoiles sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et sur toutes les plateformes où cela est possible. Ça n'a l'air de rien, mais ça permettrait à Beauty Toaster d'amplifier sa notoriété et de rassembler toujours plus d'auditrices et d'auditeurs. Merci et à très vite.